Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous reprenons la lecture du livre « Nos et moi » de Delphine de Vigan aux éditions Jean-Claude Lattès. Nous avons vu que Lou, l'intellectuel du groupe, est en train de faire et de préparer pour son école un texte concernant les SDF. Et en cela, elle est aidée par No, une jeune SDF qu'elle a rencontrée. Alors, nous allons les rencontrer aussi. Elles sont en train de partager des informations. J'avais cru comprendre qu'elle espérait quelque chose en échange. La première fois, quand je lui ai tendu le paquet que j'avais préparé, elle est devenue blême d'un coup. Elle a dit « Qu'est-ce que tu crois ?» J'ai voulu lui donner mon bonnet, mon parapluie, mon baladeur, MP3 et même de l'argent. Elle a refusé. La seule chose qu'elle accepte, c'est que je paye ce qu'elle boit. Depuis une semaine ou deux, je lui donne le compte exact la fois d'avant. Mais il faut qu'elle puisse acheter son café comme cela. Il faut dire qu'il commence à faire froid. Les deux fois, elle a dépensé des sous avant de venir. Mais maintenant, le serveur nous connaît. Il la laisse s'asseoir et commander. J'ai dit à mes parents que je préparais un exposé avec Léa Germain et que j'allais chez elle pour travailler. Ils sont contents que je me sois fait une amie. Ils trouvent ça positif. Comme j'ai dilapidé tout l'argent que ma grand-mère m'avait donné pour mon anniversaire, prévu initialement pour m'acheter l'Encyclopédia Universalis en CD-ROM, j'invente des sorties au cinéma avec des élèves de la classe. 8 € à chaque fois. Quand je rentre, je raconte des scènes avec beaucoup de détails, inventés bien sûr, parce que de toute façon, mes parents ne vont jamais au cinéma. Et puis, je donne mon opinion sur le film, je pioche dans 20 minutes, ou à nous Paris, les journaux gratuits qu'on trouve dans le métro, je brode et j'ajoute ma petite touche personnelle. Nous nous retrouvons directement au café. La gare devient dangereuse pour nous. Elle ne peut pas rester plusieurs jours de suite au même endroit. Cela fait partie de sa vie, se poser, repartir, éviter les risques. Dans la rue, il y a des règles, des dangers. Mieux vaut ne pas se faire remarquer. Baisser les yeux, se fondre dans le décor, ne pas empiéter sur le territoire du voisin. Éviter les regards. Dehors, elle n'est rien d'autre qu'une proie. Aujourd'hui, elle raconte ce temps suspendu, arrêté, les heures passées à marcher pour que le corps ne se refroidisse pas, les haltes dans les monoprix ou les grands magasins à traîner entre les rayons, les stratégies pour éviter de se faire repérer, les expulsions plus ou moins violentes des vigiles. Elle me décrit ces endroits invisibles qu'elle a appris à connaître. Cave, parking, entrepôt, bâtiment technique, chantier abandonné, hangar. Elle n'aime pas parler d'elle. Elle le fait à travers la vie des autres, celles qu'elle croise, celles et ceux qu'elle croise, ou ceux qu'elle suit. Elle raconte leurs dérives et parfois leur violence. Elle parle des femmes. Elle précise, pas des clochardes, non, pas des timbrées. Elle dit, note bien ça, Lou, avec tes mots, des femmes normales qui ont perdu leur travail ou qui se sont enfuies de chez elles. Des femmes battues ou chassées, qui sont hébergées au centre d'urgence ou vivent dans leur voiture. Des femmes qu'on croise sans les voir, sans savoir, logées dans des hôtels miteux qui font la queue tous les jours pour nourrir leur famille et attendent la réouverture des Restos du cœur. Une autre fois, elle parle d'un type qui l'a suivie. Toute une journée, elle ne savait plus comment s'en débarrasser. Elle s'est assise à côté d'elle, il s'est assis à côté d'elle sur un banc près du canal Saint-Martin. Et quand elle s'est levée, Il est resté derrière elle, pas loin. Il a enjambé le tourniquet du métro. Elle s'est glissée derrière le portillon. Il a fait de même. Elle dit, ça se voyait qu'il avait rien d'autre à foutre. Un vrai zonard. Je les repère à 15 000, je peux te dire. En pleine rue, elle a fini par l'insulter. Elle a crié tellement fort qu'il a fait demi-tour. Elle est sur la brèche, sur le qui-vive. Elle ne supporte pas que les gens la regardent. Au café, c'est pareil. Si quelqu'un se retourne, elle ne tarde jamais à l'envoyer promener. « Tu veux ma photo ? Ou qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ?» Il y a quelque chose chez elle qui impose, qui force le respect. En général, les gens se lèvent et s'en vont, en bougonnant. Une fois, un type a marmonné « Pauvre fille !» ou un truc comme ça. Non, s'est levée, elle a craché par terre à ses pieds. Il y avait une telle violence dans son regard. Le type est parti sans demander son reste. Un autre jour, elle me parle d'une femme qui dort dans le bas de la rue Oberkampf. Toutes les nuits, elle ne veut pas qu'on l'amène. Elle s'installe là chaque soir avec 6 ou 7 sacs en plastique. Devant le fleuriste, elle déploie son duvet. Elle dispose avec précaution les sacs autour d'elle. Elle dort là, à découvert, chaque nuit. Je demande de quel âge elle peut bien avoir. Non, ne sait pas. Elle dit « Oh, dans les 50 piges bien tassées !» Elle l'a vu l'autre jour chez les petits frères des pauvres. La femme est sortie avec ses pieds tout gonflés. Elle avait du mal à marcher. Elle était pliée en deux, complètement courbée. Elle faisait de tout petits pas. Noh l'a aidée à transporter les sacs vers son coin. La femme a dit « Je vous remercie infiniment !» Et Noh ajoute « Faudrait que tu vois comment elle parle. On dirait une présentatrice télé ?» Hier, elle était à la soupe Saint-Eustache. Il y a eu une bagarre entre deux femmes pour une histoire de mégot qui traînait par terre. La cigarette n'avait été fumée qu'à moitié. Elles se sont battues à mort. Quand on les a séparées, la plus jeune avait une pleine poignée de cheveux dans les mains et l'autre du sang dans la bouche. Pour la première fois, la voix de Noh s'altère. Elle se tait. Elle a les images dans les yeux et je vois que ça lui fait mal. Elle dit « Voilà, voilà ce que l'on devient. Des bêtes, des putains de bêtes !» Elle me décrit ses journées, ce qu'elle voit, ce qu'elle entend. J'écoute avec toutes mes oreilles. Et j'en ai pas mal. J'ose à peine respirer. J'en ai mal, mal. C'est un cadeau qu'elle me fait. J'en suis sûre, un cadeau à sa manière, avec cette moue qui ne la quitte pas, cet air de dégoût, et puis les mots durs qu'elle dit parfois. « Lâche-moi, fous-moi la paix !» Ou encore, « Qu'est-ce que tu crois ?» C'est une question sans en être une, qui revient souvent, comme si elle me disait « À quoi tu crois ? En quoi tu crois ? Est-ce que tu crois en Dieu ?» C'est un cadeau qui n'a pas de prix, un cadeau qui pèse lourd, dont j'ai peur de ne pas être digne. Un cadeau qui modifie les couleurs du monde, un cadeau qui remet en question toutes les théories. C'est un jour de décembre. Le ciel est bas et lourd comme dans les poésies, la buée trouble les vitres du café, dehors il pleut des seaux. Mon exposé est dans 2 jours. J'ai rempli un cahier tout entier, j'écris à toute vitesse. J'ai peur que ce soit la dernière fois. J'ai peur du moment où je vais la quitter. Je sens que quelque chose manque, quelque chose d'important. Je ne sais rien de sa famille, ni de ses parents. À chaque fois que j'ai essayé, elle a fait semblant de ne pas entendre, d'être trop fatiguée. Ou bien elle s'est levée, elle devait rentrer. La seule chose que j'ai réussi à savoir, c'est que sa mère vit à Ivry. Elle ne s'est jamais occupée d'elle. Noh a été placée dans une famille d'accueil quand elle avait 12 ans. Elle l'a vue 3 ou 4 fois depuis. C'était il y a longtemps. Il paraît que sa mère a un fils et qu'elle a refait sa vie. Ce soir, il est trop tard. Il est trop tard pour tout. Voilà ce que je pense. Voilà ce qui revient dans ma tête. Il est trop tard pour elle. Et moi, je vais rentrer chez moi. À partir de quand il est trop tard? Depuis quand il est trop tard? Depuis le premier jour où je l'ai vu. Depuis 6 mois, 2 ans, 5 ans, est-ce qu'on peut sortir de là? Comment peut-on se retrouver à 18 ans dehors, sans rien, sans personne? Sommes-nous de si petites choses, si infiniment petites, que le monde continue de tourner infiniment grand et se fout pas mal de savoir où nous dormons? Voilà les questions auxquelles je prétendais répondre. Mon cahier est plein. J'ai fait des recherches complémentaires sur Internet. J'ai regroupé des articles, découvert des enquêtes. J'ai synthétisé des chiffres, des statistiques, des tendances. Mais rien de tout cela n'a de sens. Rien de tout cela n'est compréhensible. Même avec le plus gros QI du monde, je suis là, le cœur en miettes, sans voix, en face d'elle. Je n'ai pas de réponse. Je suis là, paralysée, alors qu'il suffirait de la prendre par la main et de lui dire « Viens chez moi ». Je note 2 ou 3 trucs sur la dernière page, histoire de me donner une contenance. Elle se tait, il est 18h. C'est peut-être la dernière fois. Et il n'y a rien devant elle, rien de plus, aucun projet, aucun chemin, aucune issue. Elle ne sait même pas où elle va dormir ce soir. Je vois bien qu'elle y pense aussi, pourtant elle ne dit rien. Je finis par me lever. « Bon, ben, il faut que j'y aille. »« Ok. Tu restes là ?»« Ouais, je vais rester un peu. »« Tu veux commander quelque chose d'autre ?» Non, ça va aller. Tu seras encore à la gare de temps en temps?
Peut-être, je sais pas.
On peut se voir mardi à la même heure? Comme ça, je te raconterai pour mon exposé.
Ouais, si tu veux.
Je descends dans le métro et j'ai le vertige. C'est une peur bien plus grande qu'un exposé devant toute la classe. Une peur qui dépasse celle que j'éprouverais si j'étais condamnée à faire un exposé par semaine jusqu'à la fin de mes jours. Une peur qui n'a pas de nom.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission « Jolie pour vous », présentée par Hélène Vignon.
Il y a cette ville invisible au cœur même de la ville. Cette femme qui dort chaque nuit au même endroit, avec son duvet et ses sacs, à même le trottoir. Ces hommes sous les ponts, dans les gares, ces gens allongés sur des cartons ou recroquevillés sur un banc. Un jour, on commence à les voir, dans la rue, dans le métro. Pas seulement ceux qui font la manche, ceux qui se cachent. On repère leur démarche, leur veste déformée, leur pull troué. Un jour, on s'attache à une silhouette, à une personne, on pose des questions. On essaie de trouver des raisons, des explications. Et puis, on compte. Les autres, des milliers, comme le symptôme de notre monde malade. Les choses sont ce qu'elles sont. Mais moi, je crois qu'il faut garder les yeux grands ouverts pour commencer. Voilà, c'était la conclusion. Coup d'œil à ma montre, pas de dépassement. Je dois être à peu près aussi rouge que mon pull. Je garde la tête baissée, je n'ose pas regarder Monsieur Marin. Je range mes papiers étalés sur le bureau. Il va falloir que je regagne ma place. Je ne suis pas sûre d'avoir la force. Quand je suis bouleversée, j'ai les jambes coupées. Pourquoi ils ne disent rien? Pourquoi y a-t-il ce silence tout à coup? Sont-ils tous morts? Sont-ils en train de rire et je n'entends plus? Suis-je devenue sourde comme un pot? Je n'ose pas relever la tête. Si seulement j'étais équipée d'une fonction, téléportation immédiate vers 10 minutes plus tard, ça m'arrangerait un peu. Ils applaudissent. Ils applaudissent? Je ne rêve pas? J'ai bien entendu? Voilà, je regarde, je suis face à eux, toute la classe, ils applaudissent.
Même Léa Germain et Axel Vernoux. Monsieur Marin. Monsieur Marin, il sourit.
Assise maintenant à ma place, je pourrais m'endormir d'un seul coup, tant je suis fatiguée, comme si j'avais dépensé toute l'énergie d'une année en une seule heure, comme si j'avais vidé toutes mes cartouches et qu'il ne me restait plus rien, pas une étincelle, pas même la force de rentrer chez moi. Monsieur Marin m'a mis 18. Il termine le cours par quelques définitions dont nous prenons note. Aide sociale, couverture médicale unique, revenu minimum d'insertion, pas avant 25 ans. Car monde expulse. Une main est posée sur mon épaule. Hé, pépite, ça a sonné! Lucas m'aide à ranger mes affaires dans mon sac. Nous sortons de la classe en dernier. Dans le couloir, il éclate de rire. Il ne s'en remet pas. Pépite, tu t'es endormie en plein cours de marin. C'est à mettre dans les annales du lycée. Lou Bertignac roupille en cours et s'en tire sans une heure de colle. Je ris aussi, je crois, je suis heureuse, là, tout de suite, dans l'engourdissement du sommeil. Et si c'était ça, le bonheur, pas même un rêve, pas même une promesse, juste l'instant présent. J'y suis retournée à l'heure dite, le jour dit, non, n'était pas là. Je l'ai attendu devant la brasserie. J'ai cherché dans toute la gare, au kiosque à journaux, devant les guichets, dans les toilettes. J'ai attendu près du poteau devant lequel elle s'asseyait parfois, quand les flics n'étaient pas là. Dans la foule, j'ai cherché la couleur de son blouson et celle de ses cheveux. Je me suis assise dans la salle d'attente des voyageurs. J'ai guetté sa silhouette frêle par la vitre. J'y suis retournée le lendemain et le surlendemain, et puis d'autres jours. Un soir, tandis que je repassais pour la 10e fois devant le relais à journaux, la dame rousse m'a fait signe de venir la voir. Je me suis approchée. « C'est Nolwenn que tu cherchais ?»«
Oui. »«
Ça fait un bon moment que je ne l'ai pas vue. Elle ne vient plus trop par ici ces derniers temps. » Qu'est-ce que tu lui veux?
Ben, rien. On devait boire un verre. Elle a dû changer de crèmerie. Mais dis-moi, tes parents, ils savent que t'es là?
Non. Tu sais, mon petit, tu ne devrais pas traîner avec cette fille, avec une fille comme ça. Moi, je l'aime bien, Nolwenn, mais c'est une fille de la rue. Une fille qui vit dans un autre monde que le tien. Toi, tu as sans doute des devoirs et des tas d'autres choses à faire, et tu ferais mieux de rentrer chez toi. Je suis descendue dans le métro. J'ai attendu la rame. Je regardais les affiches et j'avais envie de pleurer. Parce que No n'était plus là, parce que je l'avais laissé partir, parce que je ne lui avais pas dit merci.
Ma mère est assise dans son fauteuil, mon père n'est pas rentré. Elle n'a pas allumé la lumière, elle a les yeux fermés. Je tente de me faufiler sans bruit jusqu'à ma chambre, mais elle m'appelle. Je m'approche d'elle, elle sourit. Quand elle me regarde comme ça, quand elle est si près de moi, une autre image se superpose. Une image nette et transparente en même temps, comme un hologramme. C'est un autre visage, plus doux, plus tranquille. Il n'y a pas ce pli à son front. C'est elle, avant. Elle me sourit avec un vrai sourire qui vient du dedans. Pas un sourire de façade qui cache les fissures. Pas un sourire silencieux. C'est elle. Et en même temps, ce n'est plus elle. Je ne distingue plus la vraie de la fausse. Bientôt, j'oublierai. Ce visage-là. Ma mémoire lâchera prise. Bientôt, il n'y aura plus que les photos pour me souvenir. Ma mère ne me demande pas pourquoi je rentre si tard. Elle n'a plus la notion du temps. Elle dit « Ton père a appelé, il ne va pas tarder ». Je pose mes affaires et je commence à mettre le couvert. Elle se lève, me suit dans la cuisine. Elle me demande comment ça va. Elle est là avec moi. Et je sais ce que ça lui coûte. C'est un effort. Je réponds que tout va bien. Oui, le lycée, ça se passe bien. J'étais chez ma copine, celle dont je t'ai parlé. J'ai eu 18 à mon exposé. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Oui, ça va, oui. Les profs sont sympas, les élèves aussi. Dans 2 jours, on est en vacances. Ah, déjà ? Elle s'étonne. Le temps passe si vite. Déjà Noël, déjà l'hiver, déjà demain, rien ne bouge. Voilà le problème. En effet, notre vie est immobile et la Terre continue de tourner. Quand la porte s'ouvre, il y a cet air froid qui vient du dehors et d'un seul coup envahit l'entrée. Mon père referme aussitôt derrière lui. Voilà, il est au chaud. Nous sommes au chaud. Je pense à nous, quelque part. Où ? Sur quel pavé ? Dans quel courant d'air ? Tiens, ma puce, je t'ai trouvé un truc qui va t'intéresser. Mon père me tend un livre. De l'infiniment petit à l'infiniment grand. Je l'avais repéré sur Internet et j'en rêvais depuis des semaines. Il pèse des tonnes. Il y a plein d'images magnifiques sur papier glacé et tout. Il va falloir que je tienne jusqu'à après le dîner pour l'engloutir. En attendant, je m'empare de l'emballage de la moussaka qui traîne sur la table de la cuisine. J'annonce haut et fort mon intention de le garder. Dorénavant, tout emballage de produits Picard devra m'être remis en main propre. Je prévois prochainement un test comparatif. Ce n'est pas que cela soit mauvais, mais les plats surgelés ont tous plus ou moins le même goût. Moussaka, hachis parmentier, poêlée méridionale, brandade et j'en passe. Il doit y avoir un ingrédient commun, quelque chose qui domine. Ma mère rit. C'est suffisamment rare pour justifier une recherche approfondie. Dans mon lit, je pense à la femme du kiosque à journaux. Il y a cette phrase qui me revient. C'est une fille qui vit dans un autre monde que le tien. Moi, je m'en fous pas mal qu'il y ait plusieurs mondes dans le même monde et qu'il faille rester dans le sien. Je ne veux pas que mon monde soit un sous-ensemble A qui ne possède aucune interception avec d'autres, B, C ou D. Que mon monde soit une patate étanche tracée sur une ardoise, un ensemble vide. Moi, je préférerais être ailleurs, suivre une droite qui mènerait dans un endroit où les mondes communiquent entre eux, se recouvrent, où les contours sont perméables, où la vie est linéaire, sans rupture, où les choses ne s'arrêtent pas brutalement, sans raison, où les moments importants sont livrés avec leur mode d'emploi. Niveau de risque, branchement sur secteur ou pile, durée prévisible d'autonomie et les équipements nécessaires. Airbag, GPS, aide au freinage d'urgence. Parfois, il me semble qu'à l'intérieur de moi, quelque chose fait défaut. Un fil inversé, une pièce défectueuse, une erreur de fabrication. Non, pas quelque chose en plus, comme on pourrait le croire, mais quelque chose qui manque.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission « Jolie pour vous », présentée par Hélène Vignon.
Monsieur Muller, venez au tableau. Lucas déplie son grand corps, il se lève avec nonchalance, monte sur l'estrade, se poste devant la surface lisse. Tracez un rond. Lucas prend la craie, il s'exécute. C'est votre note, frémissement général. Vous pouvez ranger vos affaires et terminer l'heure en permanence. Je ne peux accepter un devoir aussi médiocre sur un contrôle de connaissances prévu depuis 2 semaines. Monsieur Marin distribue les copies. Lucas range ses affaires, impassible. Il me jette un regard complice. Il en faut davantage pour l'ébranler. Il traîne des pieds, se dirige vers la porte. Il prend tout son temps. À la sortie du lycée, je l'aperçois. Il est appuyé contre un panneau de sens interdit. Il fume une cigarette. Il me fait signe et m'appelle. À chaque fois, c'est la même sensation à l'intérieur de mon corps, comme un trou d'air, comme si mon estomac descendait d'un coup dans mes talons et remontait aussi sec. C'est pareil dans les ascenseurs de la Tour Montparnasse pour la visite panoramique. Il m'attendait. Tu veux venir chez moi, Pépite ? Panique à Disneyland. Alerte rouge, mobilisation générale, affolement biologique, court-circuit, carambolage interne, évacuation d'urgence, révolution sidérale. Merci. Non, je ne peux pas. Cette puissance du dialogue, comme dirait mon père. J'en meurs d'envie, mais si jamais. Peut-être que ça n'a rien à voir avec ça. Si jamais il m'embrasse. Peut-être qu'il veut juste qu'on discute un peu. Mais si jamais. Quand on embrasse, dans quel sens faut-il tourner sa langue? La logique voudrait que ce soit dans le sens des aiguilles d'une montre. En même temps, embrasser, je suppose que cela échappe au rationnel, à l'ordre des choses. Il n'est donc pas exclu que cela se fasse en sens inverse. Je dois rentrer, merci. Une autre fois, peut-être. Il s'éloigne, main dans les poches. Le bas de son jean est usé à force de traîner par terre. Il est beau, même de loin. Peut-être qu'il n'y aura pas d'autre fois. Peut-être que dans la vie, on a une seule chance. Tant pis si on ne sait pas la saisir. Ça ne revient pas. Peut-être que je viens de rater ma chance. Dans le bus, je regarde les gens. Je me demande s'ils ont su saisir leur chance. Rien ne l'indique, ni ne l'infirme. Ils ont tous la même expression de fatigue. Parfois, un vague sourire, je m'arrête une ou deux stations plus tôt pour marcher. Je fais ça souvent, quand je n'ai pas envie de rentrer chez moi, pas tout de suite. Je ne vais plus à la gare. Je traîne un peu sur le boulevard Richard Lenoir. C'est un endroit où il y a beaucoup de sans-abri. Sur le terre-plein central, autour des jardins et dans les squares, ils sont en groupe chargés de sacs, de chiens, de duvets. Ils se réunissent autour des bancs, ils discutent, boivent des canettes, parfois ils rigolent, ils sont gais, parfois ils se disputent. Souvent, il y a des filles avec eux, jeunes, elles ont des cheveux sales, des vieilles chaussures et tout. Je les observe de loin, leurs visages abîmés, leurs mains écorchées, leurs vêtements noirs de crasse, leurs rires édentés. Je les regarde avec cette honte sur moi, poisseuse, cette honte d'être du bon côté. Je les regarde avec cette peur que nos soient devenus comme eux, à cause de moi. Il y a quelques jours, Mouloud est mort. Depuis 10 ans, il vivait dehors, dans notre quartier. Il avait sa grille de métro au croisement de 2 rues, dans un renfoncement juste à côté de la boulangerie. C'était son territoire. Sur le trajet de l'école élémentaire pendant quelques années, je l'ai vu là, tous les matins et tous les soirs. Les élèves le connaissaient bien. Au début, on avait peur de lui. Et puis, on s'était habitué. On le saluait, on s'arrêtait pour discuter. Il refusait d'aller dans les foyers parce qu'il n'acceptait pas son chien, même quand il faisait très froid. Les gens lui donnaient des couvertures, des vêtements, de la nourriture. Il avait ses habitudes au café d'en face. Il buvait du vin dans des bouteilles en plastique. Pour Noël, on lui offrait des cadeaux. Mouloud était kabyle. Il avait les yeux bleus. Il était beau. On racontait qu'il avait été ouvrier chez Renault pendant 10 ans. Et puis, un jour, sa femme était partie. Mouloud a eu un malaise. On l'a amené à l'hôpital. Et le lendemain, on a su qu'il était mort d'une embolie pulmonaire. Mon père a appris la nouvelle par les propriétaires du café. Là où Mouloud s'était installé, les gens ont commencé à coller des affiches, des lettres, des hommages et même une photo de lui. Ils ont allumé des bougies et déposé des fleurs. Le vendredi suivant, il y a eu un rassemblement. Une centaine de personnes sont venues autour de sa tante qui était restée là. Personne n'avait voulu y toucher. Le lendemain, Le Parisien a publié un article sur Mouloud avec une photo de son coin transformé en hôtel. La dame du bar d'en face a recueilli le chien de Mouloud. Les chiens, on peut les prendre chez soi, mais pas les SDF. Moi, je me suis dit, si chacun d'entre nous accueillait un sans-abri, si chacun décidait de s'occuper d'une personne, une seule, de l'aider, de l'accompagner, peut-être qu'il n'y en aurait moins dans la rue. Mon père m'a répondu que ce n'était pas possible. Les choses sont ce qu'elles sont. Les choses sont toujours plus compliquées qu'il n'y paraît. Et il y en a beaucoup contre lesquelles on ne peut rien. Voilà, sans doute, ce qu'il faut admettre pour devenir adulte. On est capable d'envoyer des avions supersoniques et des fusées dans l'espace, d'identifier un criminel à partir d'un cheveu ou d'une minuscule particule de peau, de créer une tomate qui reste 3 semaines au réfrigérateur sans prendre une ride, de faire tenir dans une puce microscopique des milliards d'informations, on est capable de laisser mourir des gens dans la rue. On ne fait rien. On ne peut rien faire. Nous avons vu pas mal de choses dans cette dernière lecture. Nous n'avons pas retrouvé nos. Nous avons vu le décès de Mouloud et les questions que se pose notre ami Lou. Nous verrons dans la prochaine séquence ce qu'elle essayera encore de faire. Elle tient à retrouver Lou. Elle tient vraiment à retrouver Nino. Dans les prochains textes, peut-être la retrouverons-nous. En tout cas, nous retrouverons aussi Lucas. Je vous propose d'écouter ou de réécouter, si vous le voulez, les textes de nos émissions. Je lis pour vous, soit en direct sur Radio Alliance Plus, 103.2 FM et DAB+, ou bien en podcast sur notre site. Au revoir! Et à bientôt, chers amis, pour la suite du livre « Nos et moi » de Delphine de Vigan aux éditions Jean-Claude Lattès.